Vous écoutez France Culture.
Phèdre en Inde, de Jean-Christophe Bailly, lu par l'auteur. Une adaptation de Jean Torrent. En janvier 1990, Phèdre fut créé à Bhopal, en Inde, par la troupe du Rangmandal Bharat Bhavan, dans une mise en scène de Georges Lavaudan, qui apparaîtra ici sous le nom de Jo, que l'amitié lui donne. Associé dès le départ à cette expérience singulière de translation, Jean-Christophe Bailly la relate sous la forme d'un journal de bord qui est à la fois un carnet de voyage et un journal de travail. La découverte de l'Inde s'y tresse à la fabrication du spectacle, tout se passant comme si les deux enjeux se rejoignaient. Trois séjours successifs en Inde, d'août 1989 à janvier 1990, forment la matière de ce journal. Deuxième épisode. Comme si la terre était un tambour placé sous le ciel.
9 août 1989, Bhopal. Dehors, la lumière a changé. Elle a pris ce ton gris et nacré d'après la pluie qui accuse les reliefs et les couleurs. Une truie noire passe dans l'avenue. Les femmes en sari montent lentement la petite route qui tourne vers des lotissements jaunes. Rickshaws, vélos et scooters vont et viennent. Calme procession, film d'humanité au ralenti, sur la terre, dans la ferveur d'un « ainsi » qui n'aurait gardé des religions que ce qu'elles ont de mieux, les banderoles et les lampes. Ce soir, en rentrant à pied du Bharat Bhavan, nous redressons le parapluie d'un petit garçon que le vent avait retourné. Il a un peu peur et je lui parle français pour le rassurer. Pâleur des lumières dans la pluie qui tombe à nouveau doucement. Sur les bords de la route, on voit dans les cuisines briller la vaisselle de métal qui est partout, même chez les plus pauvres, à l'abri dans une sorte de niche. Tranchante avec l'indistinct comme les femmes avec leurs couleurs tranchent sur la boue. La princesse aux pieds nus, parfois avec des bracelets aux chevilles, est ici une figure commune. On dirait des notes silencieuses sur une portée agitée. La pauvreté qu'on voit tous les jours, on ne la voit plus de la même façon. Le jour de l'arrivée, l'Inde semble ingouvernable. Au bout de quelque temps, on voit qu'elle est malgré tout gouvernée. Et je ne pense pas tant à son gouvernement actuel, à ce mélange de force et de faiblesse qui se voit dans le visage de Rajiv Gandhi, qu'à des faits plus palpables. Ces jardins, par exemple, que la municipalité de Bhopal implante entre les bidonvilles ou l'électricité qu'elle y installe. L'apprentissage de ce pays plus lent que partout ailleurs. 10 août. Le matin, visite de nouveaux lieux possibles pour les représentations, ainsi que d'Ahmedabad Palace, où nous retournons. La cour d'une école islamique dans le centre de la ville, où il suffirait de tendre un vélum pour voir l'une des salles de classe, sous les arcades, se transformer magiquement en scène d'apparition. Mais le directeur, dont le bureau minuscule n'est séparé de la cour que par un écran de paille, se montre si réticent que nous devons abandonner toute idée d'une telle métamorphose. Ailleurs, un palais du XIXe siècle transformé en bureau. Escaliers, colonnes travaillées, trémoresques, crachats de bétel dans les coins, odeur de créosote. Les gens font la queue devant de minuscules bureaux qui ressemblent à des placards. On imagine facilement le sort d'un Joseph K. aux prises avec l'administration indienne, repoussé de placard en placard, de file d'attente en file d'attente. Une vieille femme assise, en sari jaune, en haut d'un escalier, fait une tache claire et jeune dans le dédale. Puis le lac dans les cadres des fenêtres vides du palais abandonné. Des monceaux d'écritures arabes jonchent le sol d'une pièce. Je veux passer par des herbes hautes, mais Soubash, qui se révèle chaque jour plus précieux et plus amical, m'en dissuade, il me dit qu'il pourrait y avoir des serpents. L'après-midi, suite des séances, qui nous impose l'évidence de la marche à suivre. Il faudra que lorsque nous reviendrons, le vin soit tiré, que nous travaillions à partir d'une matière déjà existante dans les corps et les voix. Pour qu'il puisse y avoir un devenir indien de Phèdre, nous devons pour un temps disparaître, c'est ce qui est prévu d'ailleurs, et laisser le texte tel qu'il est en hindi descendre en ceux qui auront la charge de le dire. Ce qu'il ne faut à aucun prix, c'est accrocher le wagon de chaque vers hindi à celui de chaque vers français. Il faut au contraire laisser aller la langue selon son mouvement propre et travailler ensuite, comme un chef d'orchestre ou un sculpteur, sur des masses de plus en plus petites que nous corrigerons peu à peu. Aveugle, en quelque sorte, agir par le toucher. 11 août. Comme elle semble inoffensive, l'usine de l'Union Carbide, qui fit ici, il y a 4 ans, des milliers de morts. Aujourd'hui, fermée et entourée de barbelés, zone morte, l'usine n'a rien qui la distingue, non plus que le faubourg où elle se trouve. Un triste faubourg sous le tropique du cancer, avec un triste petit monument commémoratif en 3 langues, hindi, arabe et anglais, que personne ne regarde. La vie, comme on dit, a repris le dessus, c'est-à-dire qu'il y a de la boue et de la tôle ondulée, et des petites filles actionnant des pompes, d'où l'eau tombe dans des seaux et des vases de cuivre. La route qui va vers Sanchi, vers le nord-est, découvre une campagne plate et monotone que la mousson détrempe. Le stupa de Sanchi, on le voit de loin, sur la colline, vite gravie. Autour du dôme lourd et mat, les 4 portes, les 4 toranas célèbres, avec leurs sculptures allègres et délicates, et ce système d'entrée en chicane qu'elle ménage au sein de la palissade de pierre tressée qui entoure le stupa lui-même, formant déambulatoire. Entrée pour tourner autour d'un cercle impénétrable. Tourner, combien de fois? Tel est ici le principe qui gouverne. Tout autour, parmi quelques arbres agités d'oiseaux, dont des sortes de perroquets au vert vibrant, semblables à ceux que l'on voit en vente sur les marchés, prisonniers dans des boules de grillage suspendues en grappes à des perches, tout autour se déploie le site, avec ses ruines de différentes époques, des temps de l'empereur Ashoka, comme le grand stupa, jusqu'au Moyen Âge. Le petit temple 17, intact, et qu'à quelques inflexions près, l'on pourrait voir à Delphes, ou le temple 45, plus tardif, où dans une chapelle trône un grand Bouddha. La pluie, qui est devenue très violente, nous contraint à rester un temps assez long dans cette chapelle, avec le gardien silencieux qui nous sourit, et avec le Dieu. Je me perds dans la contemplation des gouttes d'eau qui rebondissent sur la pierre rose. Feu d'artifice tintinabulant qui fait d'éphémères colliers de mercure. Fraîcheur extasiée, calme féerie miniature où l'imagination trace des lacs et des jardins. C'est comme si l'eau rendait un culte au temple, et c'est comme si ce culte rendait caduque tous les autres. Le bouddhisme expulsé de l'Inde où il naquit y demeure comme une tache aveugle autour de laquelle elle tourne en s'agitant. L'après-midi, avant-dernière séance dans la petite salle, finalement retenue pour le spectacle. Il n'y a qu'une 100aine de places, mais la scène est pratiquement plus grande que l'espace réservé aux spectateurs, ce qui déporte le pari vers l'intimité, la violence, le dépouillement. Les murs sont noirs, il y a un nid d'oiseaux dans l'un des projecteurs. À la fin, nous annonçons la distribution, triste de devoir nous séparer d'une partie de ceux qui nous ont accompagnés depuis le début. À l'annonce des noms, toute la troupe applaudit. Les noms, il les faut. Les voici. Vibha Mishra, Phèdre. Saroj Sharma, Enon. Kavita Kadga, Panop. Sanjay Mehta, Hippolyte. Dwarka Prashad, Theramen. Ranjana Bhatt, Harissi. Hemlata Mahawar, Ismen. Alok Chatterjee, Thésée.
À l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur d'un cadre qu'on a défini, qui est pas de pathétique, exagéré. Pas de mélodrame. Une certaine géométrisation de l'espace
et des rapports, une certaine simplicité
de phrasé. À l'intérieur de ce cadre général sur lequel on a travaillé quand même maintenant depuis 3 semaines, si tu veux
savoir. आप लोग भी इतने बड़े एक्टर्स हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इतना तो कर ही लेंगे आप, मगर जब तक वो सेंटीमेंट नहीं होता कि ये नाटक हमारा है.
Moi je crois si tu veux qu'à un moment il est très très important qu'il s'approprie le spectacle, même si parfois il faut aller contre des intentions qu'on a données, il faut qu'il s'approprie le spectacle.
Séance de l'après-midi avec les acteurs retenus pour la suite du travail. Entrée en matière et adieu simultanément. Nous allons donc les laisser à eux-mêmes pendant 2 mois, sous la vigilance de Soubache. Même si c'est inévitable, il y a là quelque chose d'absurde, qui donne au petit signe de la main et au sourire que nous échangeons sous la pluie, quelque chose d'émouvant, de fragile. À l'aéroport, nous apprenons que l'avion pour Delhi est annulé. Après une course-poursuite un peu folle, nous finissons par prendre le train de nuit à la gare. La légende est là, vraie. Les guichets fermés, les informations contradictoires, l'agitation de la foule sur les quais comme s'il y avait exode, et surtout dans le hall, les corps couchés à même le sol dans des chiffons blancs qui ont l'air de linceuls. L'antichambre des limbes qu'est toute gare indienne dès le jour tombé. On a beau le savoir, on a beau en prendre son parti et, comme tout le monde, enjamber les corps endormis, l'image traverse le cliché et agrippe comme une main. 14 août, Jaipur. Contrairement à celui de Delhi, le Jantar Mantar, l'observatoire de Jaipur, est beau, plus que beau même. L'architecture la plus réussie ne fait souvent qu'impressionner, rarement elle libère. Or c'est le cas ici, comme dans les jardins de Kyoto, comme parfois en Italie. Les 2 grandes ailes graduées du Shastamsa Yantra, le grand sextant de marbre qui encadre l'ascension oblique du gnomon de 30 mètres de haut surmonté de sa tourelle. Chaque pas avancé sur l'horizontale du sol se règle de façon intime à la flexion de la courbe qui apparaît à la fois différente et semblable à chaque instant. De telle sorte qu'il y a à marcher une sorte de joie concertante, association du ciel au pas comme si la terre était un tambour placé sous le ciel. Et partout, sur le marbre ou le bronze, les précieux diagrammes qui, dans les bols des hémisphères célestes, dans des courbes et des droites, inscrivent les calculs de Jai Singh II, maître de Jaipur et Maharaja astronome, tandis que des singes aux corniches gambadent. Le palais des vents, le palais lui-même, lustre de Venise, cour ornée pour la danse, grande jarre d'argent ayant contenu de l'eau du Gange pour le voyage d'un Maharaja à Londres. Turban rouge des gardiens, taureau noir devant l'entrée du temple de Govinda Deva, hommes au front peinturluré, chameaux traînant des chariots plats, cyclopous, singes glissant sur les toits, marchands d'offrandes qui ressemblent à des friandises, châles fluorescents, drapés savants, cochons dans la fange, odeurs, confiseries pleines de mouches, et tout cela à la fois. Jaipur ne déçoit pas l'attente, mais la soulève et l'épuise. Nous pensons au bonheur qu'il y aurait eu à pouvoir monter notre Phèdre au Rajasthan. Mais en même temps, Bhopal, dans son lointain repli, dans sa modestie, nous fait presque un reproche, comme une parente. Entre les séductions d'une architecture raffinée et la lèpre qui vient la couvrir, entre les fleurs des offrandes et les plaies d'un chameau, entre une truie pataugeant dans la fange et la courbure d'un pied nu qui l'esquive, entre le Maharaja de Jaipur qui vit toujours dans son palais, les 108 femmes de son grand-père et les petites filles maquillées qui visitent Amber, entre un cahier relié acheté dans une papeterie du bazar et les racines enchevêtrées d'un arbre, entre les singes et les hommes, un incompréhensible lien circule qui tient tout ensemble, agencement au bord de la rupture, mais qui tient quand même. Thank you. chameaux et cyclopousses, vélos et voitures, piétons, buffles, vaches, chevaux, camions en cohorte compacte le long de l'avenue qui traverse la ville ancienne et dans les deux sens. Où va donc l'Inde ? Question qu'elle ne semble pas se poser tant elle se divertit d'être elle-même dans un mouvement sans doute plein de complaisance. Mais s'il n'y avait pas cette complaisance, mais si ce bricolage de reflets où la soie côtoie l'époux ne s'aimait pas lui-même, tout s'en irait. Et l'Inde, dont on peut au moins dire qu'elle va en Inde, n'irait plus nulle part. août, Udaipur. Udaipur, trop belle et trop petite pour n'être pas contaminée par les effets d'un tourisme incessant qui n'atteint pourtant pas les proportions ravageuses que l'on peut subir en Europe. Mais l'éternelle contradiction entre le touriste et le voyageur demeure purement intérieure. Malgré tous les efforts faits pour échapper à la règle, on y tombe. Du Lakshmi Vilas Palace, hôtel tout droit surgi d'un rêve de voyage de noces conçu autour de Bloomsbury, vu sur le lac Fatehsagar. Depuis les terrasses du palais Ocre, vu sur le lac Pichola, avec ses îles peuplées d'autres palais, l'un et l'autre étendant leurs eaux vraiment douces devant la chaîne des Aravallis, à la fois hérissée et ample. Immanquablement, le coucher du soleil, le bazar, les temples, mais tout cela comme aperçu à travers le rideau d'une fièvre que je soigne à la bière et aux antibiotiques en jouant à l'écrivain, avec une cravate, sur la terrasse devant l'hôtel où Joe me prend en photo en riant. 17 août, Delhi. Journée de rendez-vous pour le travail, presque tous inutiles. Le plaisir est d'autant plus grand le soir de retrouver les beaux visages de Subhash qui a quitté Bhopal un jour après nous et de Kriti Varma. Soirée sur une pelouse avant l'avion, sans un souffle d'air. Gentillesse de nos hôtes, mondanité, intellectuels indiens. Il y a quelque chose d'irréel à ces nuits de New Delhi au bord des longues avenues, surtout quand on sait que l'on part. Et que l'on ne part que pour revenir à ce que l'on n'aura malgré tout fait qu'effleurer. Août, Paris. La prévision selon laquelle on ne rentre pas intact d'un pays comme l'Inde se vérifie, mais pour ainsi dire simplement, sans aucun effet spectaculaire. Quelques centimètres peuvent séparer sur ce carnet plusieurs milliers de kilomètres, nous y sommes habitués. Mais la pensée, ou du moins cette aire de réflexion qui accompagne et suit le regard, n'a pas encore pu intégrer la violence et la vitesse des déplacements. Il reste surprenant, incompréhensible, de retrouver le trottoir parisien en se disant « Hier, j'étais à Delhi ou ailleurs. » Si le corps accepte passivement le décalage, avec quelques manifestations bien connues touchant le sommeil et le système digestif, l'esprit, par contre, patine. Il y a, pour lui, dans un premier temps, une sorte de panne. Il n'est plus là-bas, il n'est pas encore ici. La stupidité et l'état de distraction du vol perdurent. Dans le Paris vide du mois d'août, même s'il va de soi que je ne suis aucunement surpris de ne pas rencontrer, par exemple, des vaches en train de boire l'eau de la fontaine Saint-Sulpice, il n'empêche que l'ordonnance, le caractère extraordinairement formé de l'espace urbain me surprennent, m'égare, et tout se passe comme si le plaisir même qu'ils peuvent procurer restait à distance, comme en attente d'une disponibilité qui ne se manifeste pas encore. De telle sorte que les gestes les plus automatiques, aller boire un café, lire le journal, ont l'air d'être accomplis par un double, sorte de compagnon imprévu que l'on aurait laissé sur place, pendant que l'autre serait parti en vadrouille et très loin. En même temps, Phèdre, quand ce premier séjour nous avons vu se frotter à l'Inde, à peine, mais pourtant suspendu déjà à cette sorte de tringle à laquelle les caractères de la langue ont l'air d'être accrochés, Phèdre retourne à sa langue d'origine. Dans le lointain qui lui est propre et qui ne détonne pas moins par rapport à la langue parlée ou à celle du journal que ce qu'elle est devenue en passant en cherchant à passer dans la langue étrangère. Ce qu'il est tout de même possible d'attendre, ou en tout cas de vouloir, c'est qu'en cet étrangement, le drame soit restitué à lui-même, c'est qu'en ce voyage, il nous revienne. Autour du 20 octobre. Les nouvelles de l'Inde, dans la mesure où les journaux français les communiquent, font état d'une violence croissante à l'approche des élections dont Rajiv Gandhi vient d'avancer l'échéance. Bhopal serait en état de siège à la suite d'affrontements intercommunautaires. Un peu partout dans le monde, comme un fantôme ressurgit de temps obscurs, et plus obscur encore qu'en ces temps, l'égarement religieux revient. Nous vivons une guerre de religion épisodique à l'échelle planétaire. Par-delà les affrontements entre communautés, c'est le religieux lui-même qui fait la guerre aux Lumières. Des émeutes en Inde à l'affaire des foulards, il n'y a qu'un jet d'avion, qu'un jet de pierre. 29 octobre. Dans la forêt de Lègue, près de Compiègne. Venu là pour l'automne, je songe à Soubache que j'avais pensé amener dans ces grandes futaies du Valois qui sont sans doute ce qu'il y a de plus étrange et de plus beau parmi tout ce que peuvent offrir les paysages des pays tempérés. S'il est impossible de voir l'exotisme de ce qui nous entoure, il est du moins possible de le pressentir en le montrant à ceux qui viennent d'ailleurs. En général, et de toute façon, beauté des arbres, souveraineté de leur signature dans le paysage. Le Valois, l'Inde, le être, le banyan, tout nom est l'entame d'une liste. Les listes s'entrecroisent, la forêt du langage est engagée et présente à chaque instant du langage. 2 novembre 1989. À la veille du départ, le temps se dilate et recueille les préparatifs. Aller-retour à Strasbourg en train sous la pluie, souvenir d'autres voyages vers l'Est à cause des wagons allemands. Désir de Berlin, mais pour plus tard. C'est en Inde que je vais.
C'était Phèdre en Inde, de et avec Jean-Christophe Bailly, avec des extraits du documentaire de Jean-Paul Sivérac, Phèdre à Bhopal, une production de la Fémis. Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Éric Boissé, Benjamin Hu et François Christophe. Phèdre en Inde a été publié en 1990 aux éditions Plomb dans la collection Carnet, dirigée par Alain Weinstein. Une seconde édition de ce journal apparut en 2002 chez André Dimanche éditeur.